Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la grande table d'été ici à Avignon, à quelques dizaines de kilomètres de Nice. Il y a de la tristesse dans l'air, mais néanmoins, il est rassurant de voir dans la ville que le festival continue. Alors nous allons continuer nous aussi de parler avec ces artistes. Vers 13h20, nous accueillerons Joël Gaillot qui s'entretiendra avec François Grémaud. François Grémaud met en scène Conférence de choses dans le festival Off. Puis nous entendrons Tigana Santana, guitariste et chanteur brésilien qui sera en direct ici de la cour du Musée Calvet pour un titre. Et enfin, nous parlerons espace théâtral avec deux membres du FC Bergman et Alori Goerger. Mais tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Claude Grimbert. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Claude Grimbert, vous êtes écrivain, vous êtes dramaturge et scénariste. Vous êtes né à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, enfant caché. Vous avez commencé à écrire dans les années 60, une œuvre en partie marquée par la violence, par l'exil aussi. On entendait le journal de la rédaction tenter de décrypter à chaud ce qui s'est passé cette nuit à Nice. Vous avez écrit sur l'horreur, sur la guerre, sur les camps, sur l'exil. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a, au-delà des réactions émues, au-delà des réactions politiques et sécuritaires, une réaction d'artiste à donner là-dessus ?
Moi, j'aurais envie de dire qu'on doit se taire. Il y a tellement d'avis, il y a tellement de spécialistes, il y a tellement de gens qui savent quoi faire, qui savent ce qu'il aurait fallu faire, et que c'est pas fait, et tout ça. Et je pense qu'il y a un temps pour avaler, voilà, pour avaler la douleur, l'événement. Alors, si je suis obligé d'en parler, je vous dirais qu'il y a un siècle, c'était la guerre 14. Voilà. Et des jeunes gens étaient envoyés à la mort pour quelque chose qu'on n'a pas encore identifié. C'était le patriotisme et le nationalisme des deux côtés du Rhin. Voilà. Après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale où ça n'était plus des soldats, mais c'était des soldats et des civils. Et maintenant, il y a une guerre contre les civils. Des deux côtés, disons. Cette guerre contre les civils, ça permet peut-être à des gens qui se seraient pendus, comme beaucoup de gens, hélas, que je connais, qui se sont pendus ces dernières années, et au lieu de se pendre, qui prennent un camion et qui foncent dans la foule. Avec en plus une sorte de bénédiction, s'ils... Alors, je ne sais pas quelle est... Quelles sont les convictions religieuses ou non de ce chauffeur de camion fou. Mais voilà, il y a un moyen maintenant de faire une sorte de guerre et de tuer avec l'idée, et ça a été, cette idée était déjà présente dans la Première Guerre mondiale, puis dans la Seconde, une sorte de but, de mission, de noblesse, voilà. Et c'est ça qui est le plus terrible. C'est que cette autorisation de tuer peut se répandre, qu'on n'a pas besoin d'organiser des tranchées, qu'on n'a pas besoin... Voilà, avec un camion, on peut tuer 100 personnes. Comment arrêter ça ? Je dirais, puisqu'on est à Avignon, que ce que la culture n'a pas su empêcher hier et avant-hier... Est-ce qu'elle peut l'empêcher aujourd'hui ? Je n'y crois pas beaucoup, mais je pense qu'il y a quand même, au fond de tout ça, une défaite de notre génération. Défaite, c'est-à-dire que moi j'ai vécu le communisme, par exemple, avoir un espoir d'un monde meilleur, et puis que ça s'écroule et qu'il ne laisse... que ça ne laisse que de l'aigreur, que de la rancœur, que des crimes. Et est-ce que la culture peut empêcher quoi que ce soit ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est notre seule arme. Essayer d'éclairer les gens, de leur dire que Dieu, non seulement n'existe pas, mais s'il existait... Il ne souhaiterait pas ça. Voilà. Et je pense que c'est aussi bien les gens qui ne croient pas en Dieu comme moi que ceux qui croient en Dieu qui doivent essayer d'éclairer. J'ai entendu le mot humanisme tout à l'heure, eh bien voilà à quoi on peut se raccrocher. Il y a 1400 spectacles dans le off. Je ne dirais qu'ils n'élèvent pas tous le sentiment humaniste, mais que déjà essayer de faire rire dans ce monde, quelle que soit même la forme du rire, c'est déjà une action, une bonne action. Voilà. Alors, malgré tout, faire du théâtre, écrire, et puis j'avais tendance il y a quelques années à dire que le pire était passé. Peut-être que le pire n'est pas passé, que le pire est à venir. Mais je pense quand même qu'on est dans une sorte d'artisanat du meurtre de masse. Et qu'on est peut-être sorti de l'industrialisation du meurtre de masse. Voilà. Et dans ce sens, par rapport à ce que nous avons vécu, par rapport à ce que nos anciens ont vécu, il y a une sorte de progrès.
Jean-Claude Grimbert, vous écrivez des pièces justement et des livres pour les générations à venir, dont une se joue en ce moment dans le off à Avignon, ça s'appelle « Vite à l'abri ». C'est une mise en scène de Lisa Wurzmer à la chapelle des Templiers au Petit Louvre. C'est un texte que vous avez publié en 2014 et qui, comme son titre l'indique, « Vite à l'abri », en un seul mot, est un livre pour enfants, l'histoire d'une famille issue d'un peuple mal aimé qui erre de par le monde. Qu'est-ce qui avait déclenché l'écriture de ce texte-là qui résonne particulièrement aujourd'hui?
C'est une très vieille histoire, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans, je racontais des histoires à ma fille, et dans ces histoires, il y avait des personnages qui s'appelaient les Vite à l'abri, mais je ne sais plus ce que je racontais à l'époque, et elle ne s'en souvient pas non plus. Et j'ai voulu, quand on devient vieux, on se souvient de ces jeunes années, j'ai voulu écrire ce que je n'avais pas fait à l'époque, et lui dédier cette histoire des Vite à l'abri. Voilà, et je suis heureux qu'elle joue dedans aujourd'hui. Donc c'est un... Mais tout, vous avez dit pour la jeunesse et pour les générations futures, je n'ai pas cette prétention. Voilà. J'écris les choses qui me viennent. Je ne sais pas si dans les... dans le futur, elles seront lues. Mais je suis heureux de savoir qu'aujourd'hui, grâce à Lisa Wurmser, grâce à ses comédiens, grâce à la musique, on touche des gens et sans, comment dire, je vais être prétentieux, sans vulgarité ni bassesse. Voilà. Et qu'on essaye de les émouvoir et de les faire rire avec les moyens du théâtre. Ça s'adresse aux enfants, ça s'adresse aux familles. Je pense que il n'y a pas de spectacle pour enfants, il y a des récits qui doivent faire plaisir aux enfants et peut-être instruire les parents.
À 14 ans, Jean-Claude Grimbert, vous étiez apprenti tailleur et puis vous décidez finalement d'être comédien. Qu'est-ce qui avait déterminé ce choix à ce moment-là? Est-ce que c'est un film, une pièce ou peut-être même un acteur que vous aviez vu?
Pas du tout. C'est le plus grand des hasards. J'étais apprenti, j'avais 14 ans. Je vivais qu'avec des adultes. Dans les ateliers, il n'y avait pas de gens de mon âge. Et il y avait une organisation de jeunesse qui s'appelait l'UJRF et qui était un faux-né des jeunesses communistes. Et on m'a conseillé d'y aller. J'y étais et on m'a dit « Tu peux vendre l'avant-garde, mais tu risques de prendre des coups de matraque sur la tête. » Ou tu peux faire du théâtre. J'ai dit, je vais faire du théâtre. Voilà. Et donc, ma vocation de théâtre, c'est pour éviter les coups sur la tête.
Alors, vous avez passé beaucoup d'auditions, et puis ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui ne marchait pas?
Alors, d'abord, j'ai fait du théâtre amateur. Ça marchait très bien. Mais quand j'ai voulu devenir professionnel, comme on en parle dans les Vite à l'abri, je ne plaisais pas. C'est-à-dire que On cherchait quelqu'un de 18 ans, je venais, j'avais juste 18 ans, on me disait non, on cherche quelqu'un de 18 ans. Je disais mais j'ai 18 ans. Ben non, on cherche quelqu'un de 18 ans. Ben, j'avais pas l'air d'avoir 18 ans, j'avais déjà l'air d'être un vieux bonhomme. Non, et puis je me suis mis à écrire. Tout ça s'est fait par hasard, il n'y a pas eu de choix.
Vous avez commencé, j'ai lu, à écrire du théâtre par le biais de l'adaptation. En fait, la première pièce que vous avez écrite, c'était une adaptation du Duel, une nouvelle de Tchekhov.
Oui.
Quel regard vous portez dessus rétrospectivement sur ce premier essai? Vous l'avez toujours?
Oui, je l'ai même été édité aux éditions Actes Sud, papier. Le Duel, je me suis aperçu que, en fait, il y a tous les thèmes que j'ai développés dans ma vie d'auteur. Voilà. Mais sans Tchekhov, je pense que j'aurais pas écrit. Sans cette adaptation, en tout cas. Et donc, le fait que ce soit Tchekhov, c'est... Bon, c'était une époque où on ne jouait pas les pièces de Tchekhov 6 fois par an la même. Hein. Mais les nouvelles... Moi, j'ai lu les nouvelles et ça m'a appris la vie. Voilà, ça m'a... J'ai vu qu'on pouvait... éclairer le monde avec en décrivant la vie simple des gens, la simple vie des gens. Voilà. Alors il y a eu d'autres auteurs depuis, mais je pense que Tchekhov a été, je dirais que je ne sais pas si c'est lui qui m'a pris par la main, mais je me suis accroché à sa main.
Jean-Claude Grimbert, vous êtes aussi scénariste. Vous avez d'ailleurs reçu le César du meilleur scénario pour Amen, un film de Costa Gavras avec lequel vous avez travaillé à plusieurs reprises. Est-ce que pour vous, c'est différent, l'écriture théâtrale et l'écriture scénaristique?
Oui, c'est très différent. Quand vous écrivez une pièce de théâtre, vous écrivez un livre qui est destiné à être joué, rejoué, qui peut être... Voilà, par exemple, l'atelier. Le nombre de compagnies qui ont monté l'atelier en France et de par le monde est... Si vous écrivez un scénario, vous êtes au service d'un projet. Voilà. Ce projet... c'est celui du réalisateur. Ça peut être le vôtre aussi, mais c'est l'œuvre du réalisateur. Et donc, vous écrivez quelque chose qui va servir une fois. Et j'ai écrit des scénarios magnifiques qui n'ont pas été tournés. C'est comme si ça n'existait pas. Voilà. On pense au scénario de Sartre sur Freud. Voilà. Ça ne s'est pas tourné, ça n'existe pas. Alors, c'est publié, mais ça n'est pas la même chose que ces pièces.
Pour qui vous aviez, par exemple, écrit un scénario qui n'a pas servi?
J'en ai écrit un pour Costa, par exemple. Mais j'en ai écrit plein. Pour la télé. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que... La grosse différence, c'est que pour écrire un scénario, on vous paye, en général. Pour écrire pour la télé, on vous paye, en général, même si on refuse de le faire, même si, une fois tourné, on le jette comme un Kleenex. Pour écrire pour le théâtre, personne ne vous paye. Voilà, c'est vous qui... Alors, c'est une grosse différence. Voilà, vous êtes un professionnel de l'écriture, sauf quand vous écrivez du théâtre.
Cette année, le spectacle d'ouverture à Avignon, c'est Les Damnés. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une pièce par Ivo Vonov qui a travaillé à partir justement du scénario de Visconti et pas du film, vraiment du scénario. Vous qui avez travaillé ces deux formes, est-ce que vous comprenez qu'on puisse monter un spectacle à partir d'un scénario, Jean-Claude Grimbert?
Chacun est libre.
Vous le feriez pas?
Moi, je ne me fais pas de mise en scène.
Vous avez aussi travaillé avec Truffaut, notamment pour Le Dernier Métro, un film qui se passe dans un théâtre pendant l'occupation allemande. Il avait fait appel à vous parce qu'il avait vu votre pièce, justement celle dont vous parliez, L'Atelier. Qu'est-ce qu'il vous en avait dit de cette pièce-là?
Il avait un problème avec le personnage du juif dans Le Dernier Métro. Et quand il m'a vu jouer Léon dans L'Atelier... Il a dit, lui, il va me tirer d'affaire. Voilà. Alors, il est venu me voir. J'avais une forte dépression. Mais comme c'était Truffaut, je n'ai pas dit non. Et j'ai compris qu'il avait fait une erreur. Il avait choisi un excellent comédien, mais qui était allemand. Et cet excellent comédien allemand ne savait pas ce que c'était que jouer un juif. Voilà. Il était perdu. Il ne savait pas que... Et Truffaut venait de découvrir qu'il était juif lui-même par son père, puisqu'il venait de découvrir l'identité de son père. Et donc, j'ai aidé Truffaut à dire qu'un juif, ça se jouait comme un autre homme. Voilà. Et peut-être qu'il a pu aider l'acteur qui n'avait pas une manière spéciale, ni pour les Juifs de vivre, ni pour les acteurs de faire vivre un Juif. Voilà. Et j'ai réécrit quelques scènes. Qu'est-ce qu'il a dit de l'atelier ? Il m'a envoyé un grand... C'est aussi ça qui m'a décidé. Il m'a envoyé une longue, longue lettre à propos de l'atelier et de mon travail d'acteur. Parce que c'est ça, quand on est auteur et acteur, c'est quand on vous parle de l'acteur que vous êtes le plus heureux. Mais maintenant, je ne joue plus du tout. Voilà.
Pourquoi vous ne jouez plus du tout ?
Parce que j'ai perdu un œil, parce que j'ai vieilli, disons. Il y a des acteurs formidables qui sont très vieux, mais il faut avoir une santé de fer.
Je reviens à Truffaut, qui disait toujours qu'il fallait tourner contre le scénario et puis monter contre le tournage. Est-ce que c'est ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a tourné contre le scénario, Jean-Claude Grimbert, dans Le Dernier Métro ?
Je ne crois pas. Je crois qu'il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà. Et qu'en plus, c'est chaque sujet qui détermine la technique. C'est-à-dire, c'est pareil pour un auteur. Il n'y a pas une manière d'écrire. Il n'y a pas... on ne fait pas une pièce comme ci ou comme ça. C'est le sujet qui détermine le style, le mode d'écriture, la composition. Voilà. Et au cinéma, c'est pareil. Je pense qu'il a... Truffaut avait quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est qu'ils étaient deux. Il y avait l'artiste, le réalisateur, le grand lecteur, qui avait lu vraiment, en ce qui concerne le XXe siècle, à peu près tout ce que moi-même j'avais lu, ce qui était considérable. Et on était face à ces deux hommes, c'est-à-dire l'artiste et le producteur. Et par exemple, j'ai parlé d'un roman d'Henri Calais que j'avais envie d'adapter, Monsieur Paul. Et il m'a dit, oui, oui, formidable, formidable, formidable. Et puis j'ai vu que la machine se mettait en route et c'était le producteur qui était en train de compter. Il a dit, non, non, ça coûterait trop cher et ça finit mal. Les films qui finissent mal ne doivent pas dépasser. Et il m'a dit un chiffre que j'ai oublié, mais il avait un chiffre dans la tête. Et si on regarde, il a fait des petits films qui finissent mal, et des grands qui finissent bien, comme Le Dernier Métro.
Votre dernière pièce, Jean-Claude Grimbert, s'appelle La vie sexuelle des mollusques. C'est un vaudeville, mais un vaudeville où il n'y a pas un seul amant caché dans un placard, mais énormément de placards, énormément d'amants, puisque tout le monde trompe tout le monde. Vous avez vraiment radicalisé la forme du vaudeville. Qu'est-ce que vous essayez de faire avec cette pièce ?
M'amuser. Voilà. Entre... deux catastrophes, deux attentats. C'est extrêmement difficile. Je reviens à ça. Pendant longtemps, j'ai cru que écrire, c'était pour une sorte de prêche. Même si je ne pratiquais pas ça et que j'avais toujours l'humour qui me gênait dans mon prêche. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il faut avant tout se donner envie de continuer à écrire. Voilà, quand on écrit, c'est pas pour les autres, c'est pas pour les enfants, c'est pour soi-même. Voilà. Et puis il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des années entières où on n'a pas envie, où le monde va trop mal, et on se sent trop impuissant, et on se sent même ridicule dans sa fonction de on s'adresse à un public. Alors, on parle de l'impuissance du gouvernement, mais notre impuissance à nous, individus, notre impuissance, l'impuissance des artistes, l'impuissance des... Voilà. Alors, moi, je me dis qu'il faut écrire malgré tout parce que je ne sais plus rien faire d'autre. Même comme tailleur, j'étais très nul. Donc, j'écris, voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé en faisant La vie sexuelle des mollusques ? Je vais vous dire, c'est assez bas comme pensée. J'ai vu que tout le monde voulait des vaudevilles, je me suis dit, on va écrire un vaudeville. Voilà.
Un grand merci à vous, Jean-Claude Grimbert. Je rappelle que Les Vites à l'abri jouent ici, à Avignon, au Petit Louvre, jusqu'au 30 juillet. Le livre a paru aux éditions Actes Sud Junior et La vie des mollusques La vie sexuelle des mollusques, apparu cette année chez Actes Sud Papier. Je précise aussi que le 17 juillet à 17h30, ici à Avignon, à la maison Jean Villard, vous serez également, il y aura une rencontre avec vous animée par Jean-Claude Lalias. Il est 13h21, vous êtes bien sur France Culture. Dans quelques minutes, nous entendrons Tigana Santana qui s'est installée ici au Musée Calvé. Mais tout de suite, nous accueillons Joël Gaillot qui accueille son dernier invité du festival. Bonjour Joël.
Bonjour Lucille. Alors aujourd'hui c'est la dernière rencontre du OFF, du festival OFF. Je reçois un artiste qui a pris ses quartiers d'été comme ses compatriotes suisses à la manufacture. C'est un jeune metteur en scène, il s'appelle François Gremaud et son projet est l'un des plus inattendus du festival OFF. Pourquoi ? Parce que Conférence de choses, c'est le titre du spectacle, est à peu de choses près. Tout ce qu'on rêve de voir au théâtre, un décor élémentaire, une scène vide, une table, une chaise, un acteur avec son sac à dos, on ne peut pas faire plus minimal. Mais de ce minimalisme surgit le plaisir. L'acteur en scène s'appelle Pierre Mifsud. C'est en tant que conférencier qu'il se présente devant nous. Il a devant lui 50 minutes, pas une de plus, pour nous entraîner à sa suite dans une conférence qui, le jour où je l'ai vu, est parti de Goethe pour bifurquer vers les Mormons en faisant un détour par la pratique d'un sport hivernal. Tout cela avec aussi des précisions géographiques, scientifiques, philosophiques et ainsi de suite. C'est un vrai tour de force qui suppose de la part du comédien une mémoire inouïe et un sens de l'enchaînement tout à fait étonnant. Ce spectacle se joue, François Gremaud, tous les matins à 10h40. Jean-Claude Grimbert disait tout à l'heure, il faut essayer de faire rire. Essayer de faire rire, c'est une action, une bonne action. Mais j'imagine que ce matin à 10h40, même si vous avez joué, même si l'acteur était là, rire était peut-être un petit peu compliqué.
Oui, évidemment, comme la pièce est en adresse directe, nous ne pouvions pas ne pas prendre acte. Donc, ce que nous avons fait, c'est que Pierre est monté sur le plateau et il a partagé avec le public cette phrase que Julius Bocarne avait écrit à ses amis suite à l'assassinat de sa compagne par un détraqué. Julius Bocarne qui écrivit « Je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. » Puis il a poursuivi disant « Même lourd, le cœur bat toujours. Donc si vous le voulez bien, continuons. »
Et donc vous allez continuer, et vous allez continuer de très belle manière, puisque non seulement le spectacle se joue le matin à 10h40, mais il va être présenté en intégrale à la Fondation Lambert, soit 9 épisodes de 50 minutes, là encore un tour de force. Comment ça va se passer, cette intégrale des épisodes ?
Alors, le véritable projet de la conférence de choses est donc d'une durée de 8 heures. Ça veut dire que quand à la collection Lambert, Pierre va commencer à parler à 14h, il va parler pendant 8 heures non-stop, il ne s'arrête jamais, même pas une seconde pour aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Et les spectateurs, eux, peuvent entrer et sortir à leur guise, évidemment dans la mesure des places disponibles. Mais le savoir se déroule, Pierre est là et le partage, le met en partage. Et les gens sont libres d'en disposer ou non, de rester une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, ou faire l'intégrale comme ils le veulent.
Et ça veut dire que cet acteur absolument étonnant, c'est en mémoire 8 heures de texte ? Ou est-ce qu'il improvise par moment ?
En fait, il a en mémoire un petit peu plus, quelque chose comme 9h30 de texte qui se suit, qui est construit, mais dans la façon qu'il a de le partager avec le public, puisqu'il est là, il est vivant, les gens le sont aussi, il est libre de s'adresser au public un peu comme il l'entend. Donc si quelqu'un comme ce matin intervient, il va évidemment faire avec ce qui se passe, et puis il poursuit le fil de sa conférence, qui est comme ça, un fil qui se déroule donc sur 8 heures pour le moment, mais qui, dans sa tête, est un peu plus long encore.
Mais alors, quel est le sujet, ou quels sont les sujets de cette conférence, François Gremaud ? Parce qu'ils ont l'air multiples, et en même temps, on voit bien qu'il y a un fil qui est tiré.
Oui, alors, des sujets, à proprement parler, il y en a plus de 400, je crois, mais je pense que le véritable sujet, pour nous, c'est le partage de son étonnement, c'est-à-dire que c'est une façon de conférencier qui partage l'étonnement qu'il a vis-à-vis de tout, vis-à-vis du monde. Et selon nous, l'étonnement, enfin c'est pas que selon nous d'ailleurs, l'étonnement est finalement ce qu'il y a, ce qui est à la base de la philosophie, à la base de la pensée. Donc finalement, c'est une figure, comme certains des instituteurs qu'on a pu avoir, comme certaines des personnes qu'on a rencontrées dans nos vies, serait un pré-philosophe, celui qui met en partage tout ce qui ensuite nous permet à nous, spectateurs, de penser.
Il n'a jamais de trou de mémoire.
Jamais de trou de mémoire à proprement parler. Et si toutefois il avait une difficulté, je suis là pour lui poser une question, si jamais il devait se perdre. Mais en fait, il est absolument prodigieux pour l'heure. Il fait ça très bien tout seul.
J'ai eu l'impression, François Grenon, lorsque je suis venu l'autre matin, que le public est fidèle. C'est-à-dire qu'il y avait des gens dans la salle qui étaient capables de répondre, de dire « oui, il y a deux jours, vous avez parlé de ça, effectivement », qui se souviennent, qui sont là et qui reviennent.
Absolument. Ce qui est très beau, c'est que comme il y a soit une intégrale de 8 heures, soit 9 épisodes de 53 minutes 33 proposés chaque jour, il y a comme ça une petite communauté de spectateurs, enfin petite, qui devient de plus en plus grande au fil des jours, qui suivent finalement les épisodes. Au début, ils venaient voir une conférence, puis se disent « ah, mais c'est intéressant, ils viennent une deuxième fois, une troisième fois ». Et on a remarqué qu'il y a comme ça des petites communautés éphémères qui existent, qui finissent par exister ensemble, ce qui est plutôt heureux, évidemment, aujourd'hui.
Alors, il faut savoir que quand François Gremaud dit 53 minutes 33, c'est 53 minutes 33, puisque le comédien a un minuteur qui le programme et que à partir du moment où la sonnerie intervient, il s'interrompt au milieu d'une phrase.
Au milieu d'une phrase.
Qu'il va reprendre le lendemain.
Et le lendemain, il reprend exactement à cet endroit et il poursuit.
Est-ce que c'est pour vous de la performance ou du stand-up? Alors, ce que fait Pierre Mifsud sur le plateau.
Je dirais que ça a plutôt à voir avec de la performance, surtout lors de l'intégrale de 8 heures. Parce que comme je l'ai déjà dit, il ne s'interrompt vraiment pas, lui. Donc le temps passe et il parle, il saute de la reine Margot au bonbon Haribo, de Descartes à l'urinoir de Duchamp. Il ne s'arrête pas et c'est vraiment tout à fait performatif.
Et ça a un côté, effectivement, Marcel Duchamp, en fait, cette histoire.
Oui, il y a quelque chose de dada aussi. Duchamp, dada, il y a quelque chose de très idiot dans
cette... Un peu absurde.
Voilà, absurde. Idiot, donc, dans le sens premier, hein, idiotesse, qui veut dire particulier, singulier. Il met en partage une forme de singularité. Évidemment, il y a quelque chose de très amusant à entendre et voir, avoir cette idiotie-là.
Alors moi, je vous conseille vivement, amis qui êtes à Avignon, de vous rendre à la Manufacture à 10h40 les matins. Et si vous le pouvez, s'il y a encore des places, d'aller à la Fondation Lambert pour cette conférence de choses. Ça sera donc de quelle heure à quelle heure à la Fondation Lambert?
De 14h à 22h, sans arrêt.
Merci beaucoup, François Gremaud.
Et merci, Joël. On vous retrouvera à la rentrée. Votre émission Une saison au théâtre, ce sera tous les jours, tous les dimanches.
Tous les jours, j'aimerais bien, mais c'est le dimanche à 20h30.
Transculture, la grande table d'été, Lucille Comeau.
Il est près de 13h30 dans la cour du musée Calvé. Tigana Santana s'est installée. Alors, dans son dernier album enregistré au Sénégal avec des musiciens et des chanteurs africains, Tigana Santana entrelace musique et philosophie. Il propose un folk mystique et mystérieux. Il est chanteur, auteur, compositeur et guitariste brésilien. Il interprète pour nous Buanana, extrait de l'album Tempo et Magma. Tigana Santana, c'est à vous.
Tata mukulu mukulu, inzilame. Kunakala ye, kunambila. No matando com a Zambi, impimpando te o noeto com fã. mon fin da ki a boutin kele. Uno se kolangina kunam vutu ki a se ki a kaka ki a lumbu lumbu ame. Mukulu mukulu, inzilame. Kunakala ye, kunambila. No matondo Kwanzambi Impi Pambote Unuetu Kufa. Mon fin da ki a boutin kele. Uno se kolangina kunam boutu ki a se ki a kaka ki a Lombo amé, Lombo amé.
Merci à vous, Tigana Santana. Vous serez en concert le samedi 16 juillet dans le cadre du Festival Les Suds, pas très loin d'ici, à Arles. Et puis le 17 à Vence et le 29 à Bouliac. Votre dernier album, Tempo et Magma, est disponible chez Ajabou. C'est le deuxième temps de cette grande table d'été. On reçoit deux membres d'un collectif flamand qu'on découvre ici, pour la plupart d'entre nous, à Avignon, le FC Bergman. C'est Thomas Verstraeten et Steph Aert. Bonjour à tous les deux. Et à Laurie Goerger, bonjour. Vous nous avez rejoints in extremis. On va voir si vous avez des choses à vous raconter. Merci d'être là. Alors, le FC Bergman, vous signez Het Land Nod, le pays de Nod, dont on entend une partie ici de la bande originale, puisqu'il y a de la musique dans votre pièce. L'espace que vous avez construit est une salle du musée d'Anvers, une salle Rubens, dans laquelle il ne reste qu'un tableau monumental, un Christ en croix, que le conservateur, c'est vous, voudrait bien sortir de la salle, une salle dans laquelle il se passe des choses de plus en plus étranges, tandis qu'au dehors gronde une menaçante rumeur. Alors, Laurie Goerger, vous êtes programmée dans le cadre des sujets à vif avec Martin Palis, qui est jongleur et metteur en scène. Et votre sujet à vif s'appelle « Il est trop tôt pour un titre ». FC Bergman, l'espace, est donc une salle de musée qui est à taille réelle, dans laquelle les spectateurs sont totalement intégrés. On a vraiment l'impression, quand on rentre, d'être dans le musée. Comment est-ce que vous avez pensé ce rapport entre le public et la salle ?
Pour nous, c'est quand même vraiment important qu'il y en ait les visiteurs qui sont parallèles avec le public. Alors que le spectacle commence quand les spectateurs entrent le musée et ils sont du début le mesure du tout, je pense.
Oui, tout à fait. Quand le spectateur entre, vous êtes déjà sur scène pour la plupart et il y a une machine qui circule pour nettoyer le parquet. Et la question d'enlever ce cadre, cet immense cadre avec la peinture du tableau, elle est déjà présente sur scène et la lumière ne s'éteint jamais vraiment. C'est aussi une question de lumière ?
Je ne sais pas. J'ai pas vraiment compris la question.
La lumière, elle reste à peu près la même tout le temps entre la salle et la scène. C'est aussi une manière d'intégrer le public dans la salle de musée.
Ah oui, c'est un peu par hasard parce que nous jouons dans la matinée. Et la salle, on ne peut pas faire le noir en tout. Hein. Mais pour nous, ben oui, tous les spectateurs, je pense, ils sont aussi des figurants dans notre spectacle. Je pense que c'est vraiment important qu'ils sont là. Et ils sont comme les trois caractères principaux, les trois visiteurs du musée. Je pense que comme ça, les spectateurs peuvent s'identifier avec les trois caractères les plus principaux. Oui, voilà. Mais c'est un peu un hasard que les spectateurs aient dans la lumière parce que normalement ils sont en noir. Pour nous, c'est plus.
En fait, le lieu où vous jouez, il est quand même très particulier. Je crois que c'est la première fois que le Festival d'Avignon l'utilise, cet endroit-là. C'est un palais omnisports. Donc quand on rentre dans la salle, en fait, on rentre dans un immense chapiteau. Et à l'intérieur de cette salle-là, vous avez reconstruit un cube, mais qui est finalement assez petit par rapport à l'immensité de l'espace. Vous n'aviez pas envie d'utiliser plus d'espace ?
Oui, pour nous, le spectacle vraiment commence quand les spectateurs entrent le grand salle, quand ils entrent le chapiteau, le palais d'exposition. Et au milieu, il y a un refuge, je pense, un grand arche en bois. Et c'est quand même petit dans ce grand palais d'exposition. Mais quand on entre cette arche en bois, les gens sont plus petits parce que cette salle Rubens est quand même aussi vraiment grand. Mais c'est deux fois grand, je pense, ou deux fois petite. D'abord l'arche et après les spectateurs.
Vous avez l'habitude, avec votre collectif, de monter des spectacles dans des lieux qui ne sont pas des théâtres, alors des grandes halles, des terrains vagues même. Qu'est-ce que la salle de théâtre vous empêche de faire ?
Ben, nous sommes commencés une compagnie qui travaille la plupart du temps en in situ. On a fait ça parce que nous avons du début des grands rêves, nous voulons faire du théâtre avec des grands gestes, avec des grandes émotions, des grandes images. Et au départ de notre compagnie, c'était quand même impossible à faire parce que nous n'avions pas d'argent, nous n'avions pas de grandes scènes, parce que nous n'étions pas invités par des grands théâtres à Anvers ou à Bruxelles. Nous étions juste jeunes et petites et nous pensions que nous étions en train de chercher des grands espaces. Et si nous n'avons pas de grandes scènes à jouer, nous avons trouvé des terrains vagues, des halles des usines, etc. Et c'est commencé par ça. Et maintenant, nous sommes, je pense, 10 ans plus tard, nous sommes invités par des grandes scènes et on fait aussi des spectacles là. Mais en tout cas, pour nous, c'est assez important d'aller au début à nouveau et de juste faire aussi des spectacles in situ. Parce que pour nous, je pense, dans des spectacles in situ, ce sont ils sont les choses où les décors, ils sont réels. Et je pense que l'idée de réalité, d'avoir des trucs réels, des décors réels, c'est quelque chose vraiment important. Et in situ, on trouve ça. Hein, dans des usines, ce sont des vrais bétons, ce sont dans des terrains vagues, tout est vrai, tout est réel.
Alors, Igo Erger, comment vous le comprenez? Est-ce que vous avez déjà joué hors théâtre, dans des salles particulières?
Oui, alors, après, pour des raisons différentes qui tenaient à l'économie de mon travail au départ, il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire plutôt dans les parcs, dans des squats qui n'étaient pas forcément très très bien équipés. Et c'est un peu le mouvement inverse, c'est-à-dire que moi, je suis parti d'espaces non conventionnels, les premières formes qu'on a développées, puisqu'à l'époque c'était une joyeuse bande, on devait être une quinzaine. C'était essentiellement dans des espaces privés, parfois dans des maisons où on invitait les gens, voilà. Et progressivement, je ne sais pas si c'est l'embourgeoisement ou c'est juste les nécessités techniques liées à notre travail, on s'est ouvert à des lieux de théâtre, de plus en plus grands, de plus en plus équipés, et on a trouvé ça merveilleux. On s'est dit, ah mais il y a plein de matos là, on va tout prendre, on va tout utiliser. Et ça nous a amené à nous poser des questions de théâtre. Qui était lié à l'identité de ces lieux. Et je pense que moi, j'ai un regard de plasticien sur ces lieux-là, qui est de se dire bon, comment on projette des idées dans un espace de représentation. Et ça nous a amené naturellement à faire de plus en plus quelque chose qui s'apparente à du théâtre, davantage qu'à de la performance, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'itération, c'était des choses qui ne se répétaient pas, on faisait ça une fois, et voilà. Mais après, je me retrouve dans les questionnements de F.C. Bergman autour de cette question du réalisme et de l'identité des lieux. Et la semaine prochaine, on s'apprête à jouer avec Martin Palis dans un espace qui est très particulier, hein, qui est le Jardin de la Vierge, où là, il y a un peu un poids lié au lieu, c'est un endroit magnifique.
Qui est extérieur, extérieur et assez petit, assez étroit.
Voilà, avec une toute petite jauge pour un travail qui est un sujet à vif. Donc comme on ne l'ignore pas, les sujets à vif, ce sont des propositions qui sont faites de rencontres entre deux artistes qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais travaillé ensemble et qui ont peu de temps et peu d'argent pour, relativement peu, pour produire une forme, in situ ou pas. Et quand on respecte la contrainte, et bien ça fait 2 semaines de boulot, ce qui est relativement peu.
Vous, ce qui vous intéresse au départ, c'est la forme du happening, une chose qui arrive une fois dans un lieu et c'est pas reproductible. Là, en l'occurrence, c'est un peu l'inverse. C'est presque un cube que vous pouvez transporter de lieu en lieu.
Oui, oui, c'est vrai. Au début, c'était l'idée de vraiment jouer dans la salle originale de musée de Beaux-Arts à Anvers, parce que pour nous, ça nous a intéressé beaucoup, parce qu'ils étaient en train de rénover cette salle de ce musée, et la vue était choquante d'être là. Parce que c'était complètement détruit, les moulures étaient cassées sur terre, les toiles étaient évacuées en bas pour protection. Et nous pensons que c'était l'espace, un espace vraiment bien de jouer un spectacle dedans. Nous avons parlé avec les constructeurs, la firme de construction et la direction de la musée, mais à la fin, ce n'était pas possible. Mais on était en train de faire des brainstorms entre l'idée de faire un spectacle dans ce musée-là, et dans un jour un petit feu folle, nous avons pensé de faire justement une copie de cette salle de Rubens. Et maintenant la copie est là, on peut l'importer, mais il s'agit à nouveau aussi, est-ce que c'est réel ou non, est-ce que quand on entre dans ce musée irréel, dans ce musée qui est vraiment un décor, on voit ça à l'extérieur, c'est en bois, mais quand on entre, est-ce que l'âme de ce musée d'Anvers est juste là? Et ça, c'est une idée vraiment importante. Peut-être dans la copie, il y a plus d'originalité ou plus d'authenticité dans l'original, peut-être.
En l'occurrence, je pense que dans le musée, vous n'auriez pas pu faire tout ce que vous faites dans votre salle
parce
qu'il y a quand même quelque chose de très spectaculaire. Je ne vais pas tout révéler, mais c'est une vraie performance, c'est un vrai spectacle. Il y a des échelles, il y a des explosions, il se passe beaucoup de choses dans cette pièce de musée, à tel point que parfois, on a presque peur pour vous, Est-ce que le risque, je pense à, par exemple à Steph Aert, est-ce que le risque, c'est quelque chose avec lequel vous jouez, vous aimez jouer?
Oui, je pense que les deux choses, le danger et l'humour, ils sont des deux choses qui sont idéales d'embrasser ton public et tout et pour raconter une histoire un peu tragique dans une manière un peu subtile et
petite traduction du flamand.
Ouais.
Ça n'a pas l'air facile.
On est en train de chercher les mots.
Bon, en tout cas, il y a vraiment beaucoup d'acrobaties dans votre théâtre. J'ai pensé même au cirque. Est-ce que le cirque, par exemple, c'est une forme qui vous intéresse?
Pas vraiment, je pense.
Non.
C'est justement par hasard qu'on a pensé à des situations. Et parfois, ils semblent comme, ne sont pas des acrobats ou pas des jongleurs, mais il ne s'agit pas de faire des choses spectaculaires. Ça, c'est pas le but. C'est justement, nous avons pensé à des situations un peu drôles et parfois elles sont peut-être des bêtises, mais en tout cas, il s'agit d'une histoire vraiment poétique et politique aussi. Oui. Et ça, c'est pour nous vraiment plus intéressant il ne s'agit pas de trucs, il ne s'agit pas de faire des choses spectaculaires. Ce sont
les effets et les trucs, ils ne sont pas très bien faits aussi. C'est un peu bric-à-brac et je pense que aussi c'est charmant. Et ça veut dire que ce n'est pas si important que tu vraiment...
Crois
que je suis là à 5 mètres
en hauteur
et que c'est très dangereux. Non, c'est avec des
Darwin et... Oui, il y a des fils, vous êtes retenu.
Oui. Et le public est capable de voir ça. Mais je pense qu'aussi, ça, c'est un part de la poésie.
Alors Igo Erger, vous allez donc vous êtes marié, puisqu'en fait l'idée des sujets à vif, c'est de marier des personnes, paxer, c'est mieux, des personnes de milieux différents, d'endroits différents. Donc là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est jongleur. C'est comment vous allez intégrer ça au spectacle? Est-ce que c'était un milieu que vous connaissiez, le cirque et le jonglage?
Admirable transition. Absolument pas. Et pour ma plus grande joie, il se trouve que Martin Palis est donc directeur du Pôle National Cirque de Nexon, dans le Limousin. C'est un des premiers artistes de cirque, si pas le premier à diriger un Pôle National de Cirque. Je pense que l'enjeu essentiel d'une collaboration entre des gens qui ne se connaissent pas, c'est d'essayer de faire un pas de côté. Et c'est ce qui s'est passé, pour l'un comme pour l'autre. C'est extrêmement agréable de sortir de sa zone de confort, de travailler avec des gens qui... ont un langage radicalement différent. On s'est trouvé, je pense que c'est une collaboration qui fonctionne extrêmement bien, d'autant plus qu'elle s'est augmentée de la participation de Cosmic Neyman, c'est-à-dire 50% de Zombie,
qui est un
33%
groupe.
De Herman Dune, qui est donc le musicien qui nous accompagne sur scène. Et on peut dire que voilà, l'écriture s'est faite à deux et la représentation se fait à trois. Et qu'on est ravis de ce déplacement que ça a provoqué chez nous. Après, voilà, toutes les analogies idiotes qui viennent à l'esprit sur « oui, il y en a un qui jongle avec les mots et l'autre qui jongle avec des balles » sont pas si idiotes que ça et se valent assez, puisque la notion de risque, la notion de prouesse à laquelle vous y allusion précédemment, elle est un peu au cœur du travail du jongleur en théorie. Et il se trouve qu'en réalité, Martin Palis, lui, a choisi de jongler il y a bien longtemps, avec notamment Jérôme Thomas qui peut-être a posé les bases de ce type de jonglage en France. En tout cas, maintenant je peux passer pour un érudit du cirque, c'est génial, j'ai appris plein de choses alors que je ne connais que Pouic. Et il a développé un langage assez minimal, jonglage dit cubique, à 3 balles, seulement 3 balles. Donc on n'est pas du tout dans une recherche de prouesse classique. La prouesse, ça peut être une toute petite chose, ça c'est une chose que j'ai apprise avec lui, une chose qui peut être partagée qui pourrait être reprise à l'unisson par des gens. Le jonglage, ça génère quelque chose que moi je ne connaissais pas, qui est le désir de mimétisme chez le spectateur. On voit une personne jongler, on a automatiquement envie de jongler. C'est ce qui m'est arrivé, évidemment j'ai essayé de m'y mettre. Voilà, donc on va répondre à la question. Oui, j'ai essayé de jongler avec lui. C'est une catastrophe, j'ai toujours été très mauvais, ben, je le savais, voilà, c'est avéré. Donc je ne jonglerai pas dans ce spectacle, ne venez pas pour voir ça. Venez le voir lui. Et voilà. Et je pense que l'essentiel du travail qui a été mené, qui a été mené très vite, hein, donc 15 jours de plateau, c'est pour moi peu. D'habitude, je mets 2 ans, 2 ans et demi à écrire une pièce. Voilà, 15 jours. Bon, bah voilà, 15 jours. 15 jours, c'est 15 jours.
Thomas Westraten et Steph Aert, donc vous faites partie d'un collectif qui s'appelle le FC Bergman. Déjà, peut-être un mot parce que c'est assez mystérieux sur ce nom. On ne sait pas si c'est un club de foot ou une appartenance à un club, un ciné-club en fait, je ne sais pas trop.
C'est une bêtise de jeunesse, je pense. Quand nous avons commencé il y a 9 ans, le deadline pour avoir un nom dans notre première publication pour la communication d'un petit festival, nous avons besoin d'un nom tout à coup, ça devait être très vite. Nous étions des amis et nous pensons d'un club. Nous avons pensé d'un fan club ou un focus club ou un football club, justement quelque sorte de club. Et c'était le jour nous avons vu, nous étions en bar.
Dans un bar.
Dans un bar, oui, voilà. Et nous étions en train de voir le journal de ce journée-là. Et nous avons vu que Ingmar Bergman, le cinéaste, était mort, et nous avons pensé à Ingmar Bergman, ce cinéaste magnifique était mort, maintenant c'est le temps de la naissance de FC Bergman. Et aussi pour nous en Flandre, en flamand, Bergman ça veut dire l'homme du montagne, et pour nous c'est peut-être le symbole de tout notre travail en général, oui.
Cette forme du collectif, c'est une forme qui est bien plus courante, je crois, en Belgique qu'en France. Est-ce que vous avez l'impression d'appartenir à une tradition flamande du collectif théâtral ?
Oui et non. Oui, parce qu'il y a une grande tradition ici en Flandre de travailler ensemble, mais la plupart sont des collectifs de comédiens. Ce sont des comédiens qui travaillent sans régisseur général, et l'idée de base est que tous les comédiens peuvent faire ce qu'ils veulent chaque jour, soir à soir, jour après jour. Pour nous, nous sommes un collectif de créateurs, et c'est un peu différent parce que pour nous, les comédiens doivent faire ce qu'on dit. Il n'y a pas de si grande liberté sur la scène, mais nous travaillons collectivement dans le sens de... il y en a 3 de nous qui créent le spectacle. Il n'y a pas de hiérarchie vraiment stricte. Mais en tout cas, Steph, il joue le rôle du régisseur quand on est en train de travailler avec les comédiens. Moi, je suis plutôt le dramaturge. Allez, ça dépend de chaque partie du process de création. Ça dépend. Mais en général, on travaille ensemble et il n'y a pas d'hiérarchie stricte.
Alors, Igo Erger, vous qui êtes non pas flamand, mais qui venez du nord, je crois, de la France, est-ce que vous avez cette influence belge du collectif dans l'âme, rapidement ?
Moi, j'ai traversé plein d'expériences de plateformes de travail différentes. Une qu'on pourrait qualifier de collectif à une époque, qui s'est dissous assez rapidement et dans la joie. Puis, mais ça a toujours été en parallèle d'un travail solo où j'étais au four et au moulin, et d'un travail en duo qui est devenu un travail en trio, qui est devenu un travail en quintette. Et aujourd'hui, je me recentre sur une pratique personnelle et je m'ouvre à d'autres collaborations avec des plateformes plus expérimentales, tout en étant finalement plus traditionnel dans le modèle de développement de la compagnie.
Un grand merci à tous les deux, Thomas Westraten et Steph Aert, membres du collectif FC Bergman et Landnode dans le pays de Nod. C'est au Palais Omnisports du coup d'Avignon jusqu'au 23 juillet prochain. À Laurie Goerger, votre sujet à vif à vous commence le 18 juillet prochain à partir de lundi et ce sera jusqu'au 24. Ça s'appelle « Il est trop tôt pour un titre ». Restez bien à l'écoute de France Culture. Se prépare un 17-19h spécial autour des événements ce matin, des événements cette nuit à Nice, qui combinera les rencontres de Pétrarque qui vont s'adapter au sujet. Et puis à 18h20, le grain à moudre reviendra sur l'attentat aussi avec une question sur l'état d'urgence. Comment renforcer une sécurité déjà maximale? Ce soir, en public et en direct du Musical V, ce sera Le Monde d'hier, une adaptation de l'autobiographie de Stéphane Zweig proposée par Les Fictions. Ce sera à 20h. Quant à nous, on se retrouve lundi, on poursuit notre petite tournée des festivals. On sera au FID, le Festival de cinéma de Marseille, pour une table ronde autour du jeune cinéma expérimental. Et en deuxième partie, Patrick Chia. La Grande Table d'été est une émission préparée par Aïssa Touendoy, Anne-Catherine Lochard, Anna Baron, Lila Bozès, Lucide Pertuis et Boris Pinault. À la réalisation, Peyre Legras, équipe technique Jean-Michel Coqui, Bastien Varigo, et Pierrick Charles, chargé de production Sandrine Bréchaud. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur le site de France Culture et nous suivre sur les réseaux sociaux.